les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Il y a des chansons dont on a oublié le titre, mais dont les refrains sont installés dans les mots de tous les jours, dans les propos de comptoir et de machine à café. Papa Mambo, musique de Laurent Voulzy, paroles et interprétations d'Alain Souchon et de celle-là. On est foutu, on mange trop, c'est sur l'album Toto, 30 ans, rien que du malheur, paru en 1978, que Souchon le prophétisait. 3 ans plus tard, les Nuits Magnétiques entonnaient ce même refrain en montant sur la balance avec une émission proposée par Nicole Lisbernheim et Marie Vouilloux intitulée « Qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros ?». On explorait les très complexes relations de l'individu moderne à sa silhouette, à son poids. De kilos pris en kilos perdus, de goinfrerie en privation et de régime en gueuleton, on y racontait le tumultueux combat du maigre et du gras dans des âmes et des corps en quête d'harmonie. Qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros ? Une nuit magnétique proposée par Nicole Lisbernheim et Marie Vouilloux en 1981. Réalisation Bernard Treton.
Le temps a basculé. Les nuits sont de plus en plus douces. Dans la rue, vous avez remarqué, elles ralentissent le pas. Ils les prennent par la taille. De temps en temps, ils s'arrêtent, ils se parlent, ils s'embrassent. Les cabines téléphoniques n'ont jamais été aussi occupées. Conversations cassées, trouées par les bruits de la rue, rendez-vous manqués. Puis de nouveau la rue, la nuit, elle sourit, il l'enlace. Cette semaine, dans les nuits magnétiques, un programme de douceur variée. Vendredi, de la douceur glacée et risquée, dans le passage du Nord-Ouest, juste avant le détroit de Bering, qui sépare l'Amérique et la Russie. Pour ceux qui auraient oublié leur géographie, Michel Serres, philosophe et marin, et Willy de Ross, marin et philosophe, s'affrontent dans un fouillis de glace, de mer et de terre. L'un, le marin, a franchi le passage en solitaire en 1977. L'autre, le philosophe, tente de le cartographier dans son dernier livre, paru aux éditions de Minuit. Risque de perdition et de glaciation assuré par Michel Cohen. Jeudi, le magazine des objets. Pierre Rebontier et Bernard Treton commencent une trilogie sur les changements esthétiques et fonctionnels des objets depuis ces 50 dernières années. Mercredi, de la douceur primée et d'actualité. Le prix France Culture vient d'être décerné il y a quelques heures à Nice, dans le cadre du Festival du Livre. Roger Laporte, Claude Ollier et cette année, Gilbert Lascaux, auteur de « Boucles et nœuds » et de « La destinée » de Jean-Simon Castor. Alain Weinstein est encore avec lui, ce soir, au milieu des palmeraies. Mardi, devine qui vient dîner, chez Marcelin Plénet, qui vient de publier « Rimé », écrit en marge de « Stanze », poème d'amour, et le premier tome de son journal, Spirito Peregrino, chez Hachette POL, une émission de Claude Royer-Journoux et de Bruno Sourcy. Et ce soir, des douceurs sucrées, sucrées, Nicole Lisbernheim, Marie Vouilloux, une émission de poids.
Je veux m'en fourrer, fourrer jusque là. Je veux m'en fourrer, fourrer jusque là. Portez la lettre à Metella. Je veux m'en fourrer, fourrer jusque là.
Gras, épais, lipide, bouillon gras, faire ses choux gras. Mardi gras, grasse matinée, adipeux, corpulent, doudu, grassouillé, rond, obèse. Pensu, replet, empâté, ventru, bouffi, charnu, trapu, imposant, joufflu, etc., etc. Être gras, comme un moine, tuer le veau gras, graisseux, poisseux, gluant, abondant, plantureux, gonflé, enflé, considérable, excessif, grossier, ordinaire, pâteau, patapouf, dondon, mémère, gros gens comme devant. Gagner gros, grosso modo, gros plein de soupe, le gros de l'armée, grossiste, gros bonnet, grosse légume, gros et gras, et la bouche vermeille, avoir les yeux plus gros que le ventre, etc., etc., etc. Quelle liste ! Tout ceci pour dire que nous allons, en gros et en détail, évoquer le problème de ces êtres, dont je suis, qui font plus envie que pitié. Point important, pendant la préparation de cette grosse heure et demie, nous avons évidemment, Marie et moi, pris chacune un petit kilo.
On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. Qu'est-ce qu'on va faire quand on sera gros? On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop.
On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
Il y aurait du vide et puis ensuite une carapace assez qui s'épaissirait comme ça. Et pour faire la relation entre le monde et l'intérieur, il faudrait ingurgiter de... Tu vois, ingurgiter le monde.
On est foutu, on mange trop.
Les résultats cette semaine ?
3 kilos en moins.
Daniel, 1 kg 2 cette semaine. Laura, 1,2 kg. Nelly,
4
en 5 jours. Bien. Christiane,
c'était un petit peu dur.
Et 2 semaines de retard.
Voilà, je suis quitte maintenant. Je repars à zéro.
Christiane, les résultats, 27 kilos.
Bien. Je n'avais pas bougé.
Marie-Claude, combien de kilos perdus en tout?
49 kilos.
49 kilos, bien.
Mais l'estomac y tient pas le tempo. Tombe de haut gringo pistolero. Dans la crème chantilly les gâteaux. Dans la crème chantilly les gâteaux. Le gros bibin d'homme que t'as dans le cœur. Tu l'as trouvé beau dans le temps, petite sœur. 60 kilos d'échevelé poète. Tout lui vide au milieu des tempêtes. Mais l'estomac y tient pas la rime. L'albatros patouche dans l'ice cream. Nous v'la jolie, nous v'la beau. Tout en pâté, pâteau par les pâtés, les gâteaux. Nous v'la beau, nous v'la jolie. En kilos et soumis sous les kilos de calories. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On mange trop.
Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop. Papa Mambo.
Moi, j'ai vécu le martyr des maigres toute ma jeunesse parce que les filles, elles aimaient quand on a 16 ans et qu'on est tout maigre.
Alain Souchon.
Moi, c'était pas la mode, hein. Peut-être que maintenant et tout, encore le côté grand duduche et tout, ça plaît, mais à mon époque, ça ne plaisait pas. Il y a 20 ans, fallait être quand même un minimum baraqué et tout, c'était pas bien. Hein. Alors, je me suis même vu mettre 2 pantalons l'un sur l'autre pour essayer d'être moins maigre, mettre 3 pullovers et tout. Si, j'ai fait ça. Terrible. L'enfer du maigre. Bon, c'est vrai que le repas, c'était une fête et tout, mais alors... Ça fait aussi qu'on s'empoisonne, qu'on reste 3 heures à table, à boire plein de trucs et à fumer. On n'en sort pas gai, en général. C'est quand c'est la fête et tout, puis qu'on... Mais on en sort abruti. Dans mon métier, c'est comme ça, c'est en bouffe, tout le temps. Et j'ai souffert, quand j'étais jeune, de ces grands repas de famille où on restait des heures à table et où j'étais écœuré de voir les gens manger. À ce point-là, quoi. Je suis d'une famille assez bourgeoise où il y avait des grands repas avec des nappes et tout le bazar, vous voyez. Puis on mangeait beaucoup, quoi.
Pourtant, vous m'avez donné rendez-vous dans un restaurant.
On est à Montparnasse, c'est l'endroit des artistes.
Et quand Carlos a repris votre chanson, qu'est-ce que vous avez pensé, puisqu'il est gros?
J'ai pensé que c'était pas une très bonne idée, parce qu'il était gros, justement, que c'était drôle, cette chanson était drôle si elle était chantée par un tout maigre, mais bon. Mais en même temps, j'aime bien Carlos, il est très gentil. Je me suis dit aussi que ça pourrait peut-être me rapporter de l'argent s'il en vendait beaucoup, mais il en a pas vendu beaucoup.
En kilos et soumis sous les kilos de calories. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fait quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo. Qu'est-ce qu'on fait quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo.
On mange trop, mais on est foutu, on mange trop. C'est ça. En fait, on est foutu, on mange trop. Je crois qu'il veut dire qu'on est foutu parce qu'on mange trop. Et moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on mange trop parce qu'on sait qu'on est foutu.
Roger Diamantis.
C'est une réponse comme la boisson ou la drogue, mais avec la différence, c'est que la bouffe, c'est quand même un plaisir d'amour. C'est un des premiers plaisirs qui nous vient de l'extérieur lorsqu'on est. En fait, c'est quelqu'un qui vous donne la nourriture, parce qu'on fait partie des animaux qui peuvent pas se nourrir tout seuls quand ils naissent. Donc il y a quelqu'un qui te fait plaisir. Ça, quelque part, je crois qu'on s'en souvient longtemps. Et lorsque plus tard les autres plaisirs arrivent, le plaisir soit de travail, soit le plaisir sexuel, tous ces plaisirs qu'on essaie d'avoir dans la vie, lorsqu'il y en a un qui se déséquilibre, je crois qu'on se rejette sur un de ces plaisirs, et notamment sur la bouffe. Enfin, c'est un peu comme ça que moi je le ressens. Moi, j'ai pris 20 kilos il y a 20 ans au service militaire, lorsque je faisais mon service militaire en Algérie pendant 30 mois. Et j'ai plus jamais repris, mais je ne les ai pas reperdus non plus. Ces 20 kilos il y a 20 ans, je faisais gros. Et je trouve que maintenant, je ne fais pas gros et j'ai pourtant le même poids. Donc ça s'est réparti un petit peu autrement. Puis peut-être que moi, je me regarde autrement aussi. Alors maintenant, je ne me sens pas gros, mais ça a quand même été. Je suis en perpétuel régime, quoi. Je me dis que pour la santé, ça serait bien que j'en perde une dizaine.
Tu as quel âge ?
46 ans.
Et tu pèses combien ?
80 kilos, pour 1m63. Donc c'est beaucoup. Mais en même temps, j'ai l'impression que je fais plus grand que ma taille, et je fais plus mince que mon poids. J'ai ce sentiment-là, comme ça que je me perçois.
Est-ce que tu as eu besoin dans ta vie d'avoir du poids social ? Je veux dire, est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi, ça ? Cette expression ?
Je ne sais pas si j'ai pris du poids pour ça, physiquement. Ce que je sais, c'est que je suis attiré par toutes les nourritures, féculents, sucre, ces choses-là, quoi. Quand je me sens pas bien, il m'arrive de me défoncer aux pâtes, quoi. C'est-à-dire, je me fais des spaghettis bolognaises, qui est un plat de mon enfance. Et je suis un peu attiré par toute cette nourriture.
Tu en fais combien ?
Dans les jours où ça va très mal, ça peut être une livre.
Alors là, c'est consolation, c'est amour, c'est tout ça.
C'est retrouver le substitut de la fête, de la table familiale de l'enfance. Ouais, je crois que c'est un peu ça. Donc, c'est une réponse à l'angoisse, mais qui, à mon avis, n'est pas négative. Elle est plutôt vers la vie que vers la mort. Alors que la réponse par la drogue ou par la boisson, à mon avis, elle est plutôt vers la destruction.
Et l'alcool, tu bois peu ou...
Très peu, un peu pour arroser la table, mais c'est de l'accompagnement, mais non, c'est pas par là que... Quand j'étais enfant, c'était des bananes, des purées, des jus d'orange qu'on me donnait, c'est ça qui me reste. Je suis persuadé que c'est très important de continuer à trouver du bon pain, qu'on trouve de plus en plus rarement, de trouver des produits qui aient du goût. Ça me paraît un combat très important qu'on néglige complètement actuellement.
Tu te sens plutôt bien au fond dans ton corps qui ne ressemble pas à celui des hommes qu'on voit dans les magazines ?
Alors je me sens bien maintenant, mais pendant très longtemps je me sentais pas bien parce que je voulais être mince comme les autres, parce que je pensais justement que pendant très longtemps, jusqu'à 40 ans, que les femmes n'aimaient pas les petits gros. Et puis, doucement, je me suis aperçu que c'est pas là que ça se passait. Chez les femmes et chez les hommes. Que la séduction, c'était autre chose. Et quand j'ai compris ça, le problème de mon poids ne m'a plus gêné du tout.
Lourde. Lourde comme des ventres d'abeilles. Comme le vent paresseux. Comme le souvenir. Comme la couleur de l'orage. Comme les yeux clairs, comme une promesse qui sera tenue. gonflé de lait, de miel et de suc. Le lait d'en haut, crémeux, pour apaiser les oursons voraces et têteurs. Le lait du milieu, le meilleur, entre les crevasses un peu roses, un peu mauves, un peu brunes. Juste une petite giclée d'opale liquide, envoyée par un invisible compte-goutte. Un peu fade, mais revigorée par le poivre et l'anchois de la vulve. Germaine entre dans la salle à manger, la pièce où je me tiens. C'est la bonne de mes parents, une fille du Nord. Elle a 23 ans et j'en ai 12. Blonde, un peu rousse, des taches de son, des lèvres épaisses, un cul comme une trotteuse de Vincennes, lourde et lente, certaine, tangible, en paix avec le monde. Plus tard, lorsque je verrai des maïoles, je comprendrai. D'autres que moi ont dû sentir la même densité de bonheur chez ces filles de pleine terre et de pleine eau. Ce qu'on aime, on l'aime depuis toujours.
André Ardelais, lourde, lente.
En fait, j'ai beaucoup mangé entre 20 et 30 ans, et ça correspond à une période de non-satisfaction sexuelle. Donc il y a quand même, il me semble, un rapport entre la prise de poids et la non-satisfaction sur d'autres plans. C'est une réponse à un déséquilibre qui permet peut-être d'attendre et de se retrouver plus tard.
Est-ce que la perception de ton corps varie? Est-ce que quand tu as 10 kilos de moins ou 15 kilos de moins, est-ce que ça...
Absolument.
Oui.
Oui, tout à fait. Oui, c'est-à-dire que malgré tout, effectivement, je me sens physiquement plus séduisant. Physiquement.
Malgré tout ce que tu dis?
Oui, malgré. Malgré ça quand même. Parce que... Oui, malgré ça. Parce que, disons que la séduction dans le temps, c'est-à-dire la séduction... de la personnalité, bon, celle-là, elle ne joue pas tellement si on a 10 kilos de plus ou de moins, mais le premier contact, et bon, les gens sont pressés en général, le premier contact, bon, ça peut être important si on a 10 kilos de moins. Et puis, je crois qu'on se sent aussi un peu comme ça, on se sent plus jeune peut-être aussi.
Tu sens un volume, tu sens sur quoi?
Bon, il y a aussi les vêtements, ça permet effectivement de s'habiller autrement. On sent une espèce de proportion aussi, de proportion par rapport à sa taille, par rapport à son visage. Bon, c'est vrai que quand je fais un régime, que je commence à perdre du poids, bon, de jour en jour, je vois mon visage se sculpter aussi un peu. Bon. Et il arrive un moment où j'ai souvent cette idée aussi, c'est que je remonte les années. Enfin, j'ai cette idée comme ça que si je perdais 20 kilos, je reviendrais au poids où j'ai jamais été depuis 20 ans. De remonter le temps au fur et à mesure qu'on perd son poids.
Est-ce que c'est un plaisir, ce serait un plaisir pour toi de voir tes os, ton squelette?
Ah non. Non, parce qu'alors là, on tomberait dans un autre truc qui, à mon avis, n'est pas près de la vie, mais près de la mort. Mmh. C'est-à-dire que l'anorexie, c'est l'inverse. Hein, c'est quelque chose, à mon avis, qui n'est pas près de la vie. Alors que la boulimie, c'est quand même très généreux. C'est une déformation, mais il y a quand même un désir d'embrasser, puis d'être plusieurs, en fait. Les gens qui font beaucoup de bouffe et qui la mangent tout seuls, ils aimeraient bien que la table, qu'il y ait 10 personnes. Bon, pour un tas de raisons, elles ne sont pas là, ou ils n'en veulent pas, mais il y a quand même de la générosité dans tout ça. Je crois que dans l'anorexie, il y a certainement une très grande agressivité envers la ou les personnes qui ont donné les premiers aliments. Il y a une espèce de chantage dans l'anorexie, une espèce de refus de la nourriture pour faire chier quelque part.
Si je puis dire.
Oui. Donc, l'anorexie me paraît une maladie très dure, très, très sérieuse.
Ma grand-mère qui m'a élevée pendant 8 ans était quelqu'un de gros. Elle était très petite, enfin elle l'est toujours, ma grand-mère. Elle mesure 1m50, elle doit peser quelque chose comme 75 kilos. Et elle avait des cuisses très très courtes, et quand elle avait un gros ventre, et quand elle me prenait dans ses bras, je ne pouvais pas m'asseoir sur ses genoux, parce qu'en fait, son ventre couvrait ses genoux. Elle me serrait. C'est peut-être pour ça que ça me rappelle l'enfance, tu vois. Parce que quand elle me serrait contre elle, c'était très doux, sûrement.
Où sont-elles les baigneuses qui troublaient le cœur de Renoir? Les jeunesses bien pulpeuses qui rôdaient autour du chat noir. Ces beautés rondes et sublimes n'ont plus cours, nous vivons sous le régime du régime de la suppression de tout. On dit maigre comme Régine, on dit plus maigre comme un clou. Cette chanson parle et musique hypocalorique est faite pour vous. Faut supprimer le pâté, la potée, le potage et les pâtes au gratin. Le riz au lait, le riz de veau, le risotto, le riz complet, le lolo du matin. La tarte au poire, le tartare, le homard, le pommard et la tarte tatin. Faut supprimer la purée, l'apéro, le vouvray, le chevret, chambertin. Oh, c'est beau d'être bien dans sa peau, réveillon, cotillon, Saint-Pantin. Chantons tous sur ces quelques notes, le jus de carotte et les jours sans pain.
Chantal Chaouard, écrivaine enrhumée et maigre.
Le corps fait très tôt un choix, enfin très tôt suit comme ça un développement qui est le sien, qui lui est propre, et sur lequel notre idée d'une esthétique n'a pas à intervenir, sauf si... Enfin, n'a pas à intervenir sans violence. Parce que si à ce moment-là, on intervient justement dans ce développement comme ça, libre d'un corps, selon son cheminement, selon son tracé, c'est là qu'il y a une espèce de violence qui peut être culturelle, qui peut être justement référent avec un modèle de beauté, un modèle... Et donc je disais maigre, tenant à l'être, parce que j'étais maigre, et tenant à le rester, parce que c'était là où le corps... suivait sa source, sa pente, son cheminement. Et moi, je ne pouvais qu'être docile. Je n'avais pas envie de me torturer pour justement changer le cours des choses, changer le cours de ma vie, intervenir avec quelque chose qui aurait été finalement étranger, extérieur à ce qui se vivait là. Et je me suis aperçue que pour moi, justement, la grosseur, parce que j'ai été beaucoup plus grosse à certaines périodes, c'était quelque chose qui ne me convenait pas sur le plan de ma santé. Et donc, pas seulement de ma santé. C'est donc une question de liberté, tout ça. La liberté d'être maigre, la liberté d'être gros, la liberté d'être ce qu'on est, et comme on va vers là où on va. Le problème, c'est justement d'aller dans un sens qui n'est pas votre sens, qui est contraire à vos besoins, vos tendances, vos sensations. Les maigres, on a une sensation de légèreté, et peut-être que quand on a une sensation plus lourde, quelque part, ça ne correspond pas à quelque chose de soi.
Et quand vous avez été enceinte, par exemple?
Quand j'étais enceinte, j'ai même connu carrément l'obésité. Parce que, justement, n'étant pas du tout... me sentant complètement étrangère à la grosseur, je ne pensais pas qu'elle elle pouvait me devenir si intime. Et j'ai pris, je ne sais plus, mon premier enfant, j'ai dû prendre plus de 20 kilos, enfin quelque chose d'absolument aberrant. Et j'ai connu la vraie grosseur. Et après mon accouchement, j'ai été grosse, si on peut dire, pendant à peu près un an. Et en fait, j'ai passé par toutes les formes, justement, du poids possible d'une femme. Parce que j'ai d'abord été grosse, après un peu moins grosse, donc ronde. Enfin, ça a fait tous les modelés possibles, imaginables, désirables ou indésirables. Et vraiment, j'ai connu comme ça un petit peu tous les corps en quelque temps. Surtout que ça s'est reproduit une deuxième fois et ça a recommencé les problèmes. Et c'est comme ça que j'ai su que j'étais maigre. J'étais maigre. Parce que sinon, ça n'allait pas du tout pour moi. Et ce n'était pas du tout une question d'esthétique, car au contraire, dès l'enfance, j'admirais bien sûr toutes les... Enfin, même les femmes, les femmes comme ça, beaucoup plus formées, corpulentes, plantureuses. Je trouve ça très beau, très féminin. Et je me sentais, moi, pas du tout du même registre. Mais en même temps, c'était... À travers toutes ces sensations, toutes ces différences, c'était aussi comme s'il y avait des lieux différents. Donc je tombais sous les...
je me laissais comme ça structurer par les images. Maigreur, vous voyez, ça allait vers esprit, travail, abstraction, créativité, et grosseur, rondeur, corps, sexe, femme, plaisir. Je sentais que c'était des vies qui, quelque part, s'opposaient à un moment donné où il fallait, au moment où il fallait se vivre, se produire sa vie, produire son choix, son... C'était donc influencé à cette époque-là, une époque immature. Une vision comme ça, donc, de mon corps m'influençait et était influencée réciproquement par toutes ces images qu'on nous a toujours opposées entre de femme à femme. Alors qu'en fait, tout ça est complètement artificiel et escamote complètement le problème profond. Pardon, mais je suis vraiment enrhumée. Mais moi, intérieurement, je vous dis, je me sentais en exil de quelque chose. Parce que j'avais pas l'habitude. Parce que depuis que j'étais petite fille, depuis que j'avais, je sais pas, 3 ans, 4 ans, j'étais complètement du type longiligne, transparent. Et donc, je m'étais habituée comme ça, à me déplacer avec ce poids-là et pas avec un autre. À penser avec ce poids-là et pas avec un autre. À agir de cette façon. Et quand je me suis sentie plus lourde, parce qu'on se sent plus lourd. Enfin, moi, je sais que je le sentais parce qu'il y avait une telle différence entre les deux poids. D'abord, je me sentais... curieux, je me sentais plus vieille, peut-être plus adulte. Parce que justement, c'était la grossesse, c'était l'enfant, c'était la femme. Et c'est pas forcément ce qu'on a envie de se sentir, bien sûr. C'est pas forcément ce qu'on a envie de se sentir, parce que c'est pas forcément la phase qui vous inspire le plus dans tout votre itinéraire total, mental. Faut pas être narcissique.
Cyril Connolly était un des plus connus, plus admirés hommes de lettres anglais du XXe siècle. Et pendant la guerre, il a sorti un petit bouquin de ses pensées dans lequel il a écrit « In every fat man, a thin one is screaming to get out ». Dans chaque homme gros, il y a un mince qui cherche à échapper. Vraiment, ça c'est devenu une des phrases très connues partout dans le monde anglophone.
Lourdes et lentes, prenant bien leur temps pour reluire et faire reluire, nourrices, mères, sœurs, pleines de lait et de sécrétions d'organes mous. Les autres, les maigres, les rapides, retournez à vos enfers étroits. Germaine était lourde, lente.
Cette fois, je crois que nous sommes complètement, ça y est. Mais c'est une question que c'est absolument satisfaire. Parce que se ronger les sens, ça serait tout à fait, il n'y a pas de quoi. Alors moi, je sens que je ferai pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Pas long feu, pas long feu dans cette chaîne de vie, pas long feu. Pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Pas long feu, pas long feu dans cette chaîne de vie, pas long feu. Quand la vie semble inévitablement se foutre, on se dit qu'il vaudrait mieux être tout à fait, c'est pas ça. Et malgré tout, on reste totalement, on fait comme on a dit. Alors moi je ferai pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Pas long feu, pas long feu dans cette chaîne de vie, pas long feu. Pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Pas long feu, pas long feu dans cette chaîne de vie, pas long feu. Ce flash. marié, il n'y aurait plus question de remettez-nous sa patron. Et dans ma tête, je suis véritablement, j'en peux plus. Et je me sens vaguement où va-t-on nous. Alors je ferai pas l'en faux,
pas l'en faux, pas l'en feu ici, pas l'en feu. Pas l'en feu, pas l'en feu
dans cette chaîne de vie.
Marie Renaudin, Madame Maigrir depuis 12 ans, dans un grand journal féminin. Elle s'y connaît.
On programme ce qu'on appelle des spéciaux Maigrir environ 3 fois par an. Juste avant l'été ou après les fêtes de Noël, enfin quand les femmes ont des problèmes, surtout avant l'été, des problèmes esthétiques. Parce qu'à ce moment-là, il y a une grande demande de programmes minceurs. J'ai pas vu d'évolution dans ce domaine du désir de maigrir. Je crois qu'il est exactement le même qu'il y a 12 ans ou 15 ans. Ce qu'il y a, c'est que les modèles ont un peu changé. Les références étaient encore beaucoup plus minces que maintenant, puisque la mode était présentée par des mannequins comme Twiggy ou Shrimpton, qui étaient des chats écorchés, et que donc le modèle était vraiment la maigreur, et pas la minceur. Alors là, Ça a un peu évolué, et notamment les jeunes, par rapport à la génération qui a maintenant 35-40 ans, les jeunes sont peut-être un peu plus décontractés vis-à-vis de ce problème-là. Mais il y a toujours un désir de maigrir, que ça soit chez la fille de 20 ans qui est trop grosse, aussi bien que chez la femme de 40 ans, je crois. Les femmes, en fait, sont presque prêtes à faire n'importe quoi pour maigrir. Et donc, c'est là, c'est notre rôle à nous de ne proposer que les choses sérieuses. Parce que c'est très facile de proposer n'importe quelle recette ou méthode dangereuse pour la santé. Et parce que je crois qu'on n'est pas encore très raisonnable dans ce domaine-là.
C'est des piqûres de quoi, à votre avis, qu'elles se font faire ?
Je ne sais pas, parce que souvent c'est déguisé, vous savez, sous forme d'homéopathie dans les ordonnances. Ça peut être un cocktail d'extrait thyroïdien, diurétique, etc. Tous les médicaments extrêmement dangereux pour maigrir, parce que, enfin, maintenant elles sont informées, mais il y a toujours des médecins qui pratiquent ces méthodes-là, malheureusement. Il y en aura toujours tant qu'il y aura de la demande. Mais nous, au journal, on n'a jamais... finalement, il n'y a qu'une seule façon de maigrir, c'est le régime. Donc, le reste, ce sont des aides, régimes, disons. Mais on a toujours essayé de rester dans le programme alimentaire.
J'ai rencontré une personne qui m'a parlé, une ancienne grosse, comme on dit, qui a perdu 20 kilos, et qui m'a parlé avec une certaine nostalgie de la douceur de son corps avant.
Ah, bah ça c'est possible, oui. Il y a peut-être des grosses qui regrettent leur poids. Ça peut arriver. Il peut arriver qu'une femme ait l'obsession de maigrir, et une fois qu'elle a maigri, il se trouve qu'elle n'a pas résolu son problème. Probablement qu'elle croyait qu'avec la minceur, lui viendrait la joie de vivre, mais c'est pas toujours le cas. Mais nos lectrices nous demandent tout de même, il y a une grande demande de recettes. Je me souviens d'une amie qui avait, dans un autre journal, fait un article justement sur l'obésité, le pourquoi de l'obésité. Elle avait interviewé des psychologues, psychanalystes et tout ça, et le numéro s'était très mal vendu. Parce que finalement, ce qu'on nous demande, c'est beaucoup, beaucoup de pratiques. Et ça, je vois quand plus le régime est détaillé, plus on dit qu'il faudra manger une demi-tomate à 10h du matin et 3 citrons à 5h de l'après-midi, plus nos lectrices sont contentes. Elles ont besoin d'être dirigées.
Toutes les femmes rêvent un jour ou l'autre de pouvoir mincir à volonté, surtout en des points précis de leur silhouette, hanches, cuisses, genoux, chevilles, là où se situent ces rotondités superflues considérées comme une calamité. Aujourd'hui, une nouvelle crème le permet. La crème amincissante Nia Nia 3, formule triactive. S'appuyant sur les derniers travaux des chercheurs, les laboratoires Nia Nia ont compris qu'il était désormais possible d'agir au niveau même des alourdissements localisés. Un seul produit, mais une triple action. Amincissante, affermissante, adoucissante.
J'ai toujours pesé 45 kilos jusqu'à il y a 2 ou 3 ans. Et depuis, ben, je prends un peu de poids. Alors, de temps en temps, je fais un régime, surtout au mois de juin. Je mange des protéines en poudre. Des sachets de protéines. C'est très bon parce qu'on dit toujours que pour maigrir, il faut surtout privilégier les protéines. Et en même temps, ça calme la faim. C'est très, très bourratif. Enfin, je ne le recommanderais pas. Je veux dire, ce n'est pas un régime au long cours. Hein. Ça peut se faire pendant une dizaine de jours, une quinzaine de jours.
Contrôle du poids, contrôle du poids,
Je veux m'en fourrer jusque-là. Portez la lettre à Medella. Je veux m'en fourrer jusque-là.
C'est plutôt moi qui suis trop grosse. Qui me trouve trop grosse.
Tu pèses combien?
26-27 kilos.
Tu as quel âge?
7 ans.
Et tu voudrais peser combien?
10 kilos.
Ce serait mieux que 26.
Bah oui, parce que je serais moins grosse. J'ai envie d'être assez maigre.
Allez, viens manger maintenant.
On est foutus. On mange trop.
Qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? On sera moche. On sera
Anne Gaillard.
Pour moi, être gros, c'est s'isoler du monde. C'est fabriquer de la carapace. Donc c'est triste. On sera triste aussi. Je sais pas. Enfin, pour moi, être gros, c'est quelque chose de totalement négatif. C'est être plein de vide. Plein de vide qu'il faut remplir, tu vois. Enfin, moi, quand j'étais grosse, et encore maintenant, puisque je me pense toujours grosse, pour moi, c'est un état permanent, tu vois. C'est pas lié vraiment au poids. C'est un schéma qu'on a dans la tête. Enfin, que j'ai dans la tête, moi. C'est ça, c'est... Donc, enfin, je mangeais, maintenant je fais attention, mais je mangeais pour remplir ce vide. C'était... Et puis me rendre encore plus moche, encore moins désirable, encore. Enfin, chez moi, j'avais l'impression directement liée à la sexualité. C'était quelque chose de... Je suis moche, donc je suis pas désirable. Et... En fait, comme ça, je suis quitte. J'ai pas besoin de désirer, j'ai pas besoin qu'on me désire. Enfin, c'est annuler le problème. C'est bizarre parce que c'est en même temps, c'est augmenter. Enfin, c'était augmenter ma féminité par les seins, les fesses, tout en voulant l'annuler. Enfin, c'est bizarre.
Tu as quel âge?
J'ai 30 ans, bientôt.
Et tu pesais combien?
Mon poids maximum, je crois que ça a été 72 à peu près.
Mais tu mesures combien?
Je mesure 1m58. Je crois que c'est 72 parce qu'à la fin, je me pesais plus du tout. Enfin,
c'est quand même pas 90 kilos ni 100 kilos.
Mais je pense... Moi, j'ai pas l'impression que ce soit une question de poids. Bon, de toute façon, 1m58, 72 kilos, c'est pas mal. Ça fait déjà petite boule. Mais j'ai pas l'impression que ce soit lié vraiment au nombre de kilos, c'est... Moi, maintenant, j'ai maigri, je me pense toujours grosse. Pendant un moment, quand j'ai maigri, je me suis trouvée bien, j'étais assez contente, j'étais d'accord avec mon corps, Il y a eu un moment où j'ai vraiment eu l'impression de revivre, et puis maintenant, je me rends compte que, à nouveau, je me trouve grosse, et bon, ça recommence. J'ai pas regrossi parce que je fais très très attention, mais je me repense grosse, comme quand je pesais 72 kilos.
Tu as beaucoup maigri, tu as perdu 20 kilos,
ouais,
quelque chose comme ça.
19, 20, je sais pas, à peu près. Oui.
C'est beaucoup, enfin, je veux dire, c'est un gros morceau.
Oui, oui, c'est un gros morceau, mais... Mais en plus, j'ai oublié comment j'étais, comment je me sentais dans mon corps. Ça fait 2 ans que j'ai maigri, maintenant je sais plus comment j'étais mal, parce que maintenant, souvent, je suis mal dans mon corps, de la même façon. Je me pèse tous les jours maintenant, et si je... Et mon humeur de la journée varie vraiment selon les 500 grammes que j'ai pris ou que j'ai perdu. Je me suis rendu compte qu'en perdant 500 grammes, je démarrais la journée vachement mieux que si j'avais pas maigri ou pris 500 grammes.
Et qu'est-ce qui a décidé que tu maigrisses ? Qu'est-ce qui a fait ?
C'est le regard des autres, je crois, vraiment. Parce que je travaillais avec une femme photographe à ce moment-là qui tous les jours me disait « Mais pourquoi est-ce que tu es aussi grosse ? Mais c'est dommage que tu sois aussi grosse, etc. » Mais je ne sais pas si c'était un désir très profond, en fait. Pour moi, c'était le regard des autres. Être gros en soi, ce n'est pas désagréable, quelque part. C'est doux et chaud. Et en fait, c'est dans la vie en société que... Bon, c'est le regard des autres, effectivement, qui te dit que tu pèses 20 kilos de trop, ou 10, ou 4, et que tu ne corresponds pas à un modèle... Le modèle des magazines, de toute façon, je correspondrai jamais. C'est sûr. Alors là, c'était complètement la fascination, parce que je ne pouvais rien faire contre ça. Je prenais 3 kilos ou 4 par mois, sans rien, sans pouvoir le freiner, sans... Oui, c'était un peu voir ses limites. Voir jusqu'où on peut aller, peut-être là-dedans, tu vois. Dans le dégoût de son corps et dans l'horreur, en fait. J'étais vraiment fascinée, je crois. Donc j'étais spectatrice et je pouvais rien... Enfin, j'avais pas vraiment envie de faire quelque chose. C'est un peu comme si j'avais voulu grossir jusqu'à éclater. Enfin, pour qu'il se passe quelque chose, je crois. Quand je mangeais des gâteaux, ça me dégoûtait complètement. C'était pour mieux me dégoûter, enfin. De toute façon, si j'aime pas mon corps, je peux pas faire l'amour, puisque je supporte pas qu'on le touche. Parce que si quelqu'un me met la main dessus, je pense qu'il met la main sur mes grosses fesses. En fait, tu vois, c'est toujours cette idée présente du corps, très 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 forte. L'image très présente. D'ailleurs, les gens que j'aime bien, c'est rare, enfin que je trouve beaux et qui m'attirent sensuellement, c'est jamais des gens maigres. J'ai jamais eu d'attirance pour quelqu'un de maigre.
Oui. Moi, je crois qu'on perçoit très difficilement. Moi, je perçois difficilement le dedans, le dehors, le dedans, dans le corps. C'est une des choses, les limites de son corps, c'est quelque chose que je perçois, de mon corps, c'est quelque chose que je perçois difficilement aussi.
Oui.
Et j'ai l'impression que c'est lié à ce genre de problème. Enfin, les gens qui ont ce genre de problème n'ont pas une situation dans l'espace qui est assez claire. Il y a des gens qui ont une situation très claire de leur espace, je crois, de leur volume.
Peut-être, oui. Je ne sais pas, ça.
C'est une des questions, si tu veux, que je me pose.
Oui.
Pourquoi je fais cette émission, j'ai l'impression. C'est des questions que j'avais envie de poser, tu vois.
Oui.
C'est... Mais bon, c'est des... C'est des questions sans réponse, presque. Enfin, Et qu'est-ce qu'on perd quand on perd du poids ?
Je trouve qu'on perd son enfance. On perd la douceur qu'on se fait. C'est... Moi, je l'ai senti comme... j'ai l'impression de m'exposer plus que quand j'étais grosse. Oui, on perd du doux.
Et on gagne quoi ?
On gagne... Je ne sais pas si on gagne quelque chose. On gagne à se normaliser, donc à peut-être être... On gagne une forme d'anonymat, je trouve. En même temps, quand je mettais ma tête dans mon bras, je trouvais ça extraordinaire au lit, tu vois. C'était... C'est une façon de se bercer.
Une façon de se bercer.
Oui. Tu sais, quand je mettais mon bras comme ça, plus c'est gros, plus c'est doux et plus c'est extraordinaire, je trouve.
Brièvement, le régime du camp, il y avait un réveil matinal vers 6h moins le quart, je crois.
Jacques S., ancien déporté.
On nous servait un quart de mauvais café et un morceau de pain, c'est-à-dire une boule de pain qu'on partageait au début en trois, ce qui devait faire quelque chose comme 400 grammes par personne. Et puis, au début de 45, c'est devenu un cinquième de boule, c'est-à-dire que nous n'avions plus que quelque chose comme 200 grammes de pain par jour. En tout et pour tout. À ce morceau de pain était ajouté, selon les jours, soit d'une rondelle de Leberwurst, de saucisson de foie, ce qui n'était pas mauvais d'ailleurs, je me souviens, et soit d'une rondelle de Schinkenwurst, un peu de saucisson comme des saucissons à l'ail français, mais sans ail et sans graisse, et parfois une cuillerée de confiture. Alors ça, c'était le repas, c'était la nourriture pour la journée. Nous n'avions pas de repas à midi, nous partions au travail dans les commandos divers, de terrassement, d'usine. Généralement, les commandos en plein air, c'était beaucoup plus dur parce qu'on était exposés au froid. Et à la pause de midi, il n'y avait rien à manger que le même morceau de pain si on en avait gardé un petit peu de son petit déjeuner, de ce qu'il fallait bien appeler un petit déjeuner. Et alors, nous en gardions une partie au bloc même, car il y avait des Stubendienst, des gardiens de bloc, à qui on pouvait remettre son morceau de pain qu'on n'avait pas mangé pour le retrouver le soir, si on était assez héroïque pour passer toute la journée sans ce petit bout de pain. Ou bien on l'emportait avec soi au travail, au risque de se le faire voler par d'autres déportés, notamment des déportés russes qui étaient des petits voyous, qui étaient raflés dans les prisons d'Ukraine. Alors, ils avaient été mis là pour des délits de droit commun, généralement. et qui fauchait beaucoup. Alors quand on a porté son morceau de pain et que quelqu'un vous, d'un coup de rasoir, vous ouvrez votre petite musette fabriquée de briques et de broc, et qu'on se retrouvait sans son morceau de pain, il y avait des gens qui se mettaient à pleurer dans ces cas-là. Donc après une journée en plein air de 12 heures, de 10 heures, plus l'appel sur la place publique en rentrant, cet appel qui pouvait durer 20 minutes, une demi-heure, mais qui durait parfois 2 heures, il va m'y arriver qu'il dure 4 heures, par moins 15 ou moins 20 degrés, on rentrait. Et alors, si on rentrait assez tôt du commando, on allait prendre la soupe et on repartait pour l'appel. Parfois, on rentrait trop tard et on faisait l'appel et ensuite on mangeait la soupe juste avant de se coucher qui était froide à ce moment-là. Mais quand on mangeait la soupe chaude, dans de bonnes conditions, c'était la seule nourriture qui restait pour la journée. C'était 1 litre de soupe. La soupe était 5 jours par semaine, une soupe de riz tabaga. 1 litre de soupe de riz tabaga, assez clair, mais avec beaucoup de riz tabaga dedans, coupé en tout petits morceaux. Et puis, on trouvait parfois un petit peu de nerf ou de tendon, de viande dedans. 2 autres jours par semaine, je crois que c'était le jeudi, il y avait la goulash, qui était des pommes de terre cuites à l'eau qu'on nous servait et qu'on épluchait. À la fin, on ne les épluchait plus, ou bien il y avait des gens qui mettaient les épluchures à part pour les manger ensuite, ce qui ne sert à rien parce que c'est absolument pas nutritif et c'est très mauvais pour l'intestin en plus de ça. Sur ces pommes de terre, on versait une espèce de sauce qui avait le goût de viande, une sauce à la viande, certainement. Et c'est la soupe la plus estimée dans le camp, qui donnait le plus l'impression de caler le ventre. Et puis, un autre jour, je ne sais plus quel jour c'était, il y avait la soupe sucrée. Et c'était une espèce de sorte de maïzena. C'est-à-dire que quand elle devenait froide, elle devenait gélatineuse, un seul bloc, on pouvait la manger comme une espèce de blanc-mange, comme un gâteau. Cette soupe sucrée était très critiquée par la plupart des gens, surtout les adultes, qui ne la trouvaient pas nourrissante, tout ça. Ou que peut-être qu'il y avait des réminiscences de nursery, la dernière cuillerée enfournée de force qui provoque le réflexe nauséeux entre l'âge de 2 ans et 3 ans. En tout cas, moi, nursery ou non, j'aime beaucoup cette soupe-là, parce que j'avais 17 ans et 18 ans et 19 ans, et j'avais un grand besoin de sucre, et c'était une des seules sources de sucre que nous ayons là. Voilà.
On ne pensait plus qu'à manger. Alors, entre deux corvées, ou dans une nuit d'insomnie, on faisait le menu du repas de libération, menu de 6 ou 7 plats, tous choisis parmi les meilleurs. Dans un second temps, on améliorait les détails. Le bœuf était finalement du pur charolais, le mouton venait de Pauillac, le rouget de la Méditerranée, le beurre des Charentes, la quiche d'Alsace, et certains crus du Gers les seuls dignes de fournir le bon Armagnac terminal. Les plus compétents indiquaient l'année du Montrachet, du Haut-Brion et du Clos d'Estournel. Naturellement, troisième temps, c'était chose trop grave pour qu'on ne la consigne pas par écrit, et on perdait le papier, et on accusait son voisin de lit de l'avoir chippé, et alors, brouille définitive. Bref, on passait la journée et la nuit à ressasser ce qu'on mangerait à la libération. Pourtant, les derniers jours avant la mort, on cessait d'avoir faim.
Étant jeune homme, n'ayant, comme tous les jeunes gens, aucun intérêt pour la gastronomie, tous les jeunes gens aiment la nourriture bonne et saine, et c'est tout. Et ça me paraissait risible, et comique, et tragique à la fois, de voir ce squelette qui se disputait. N'ayant rien à manger, sur des recettes déjà entre gastronomes, paraîtraient très très riches. Dès ma libération, j'avais souvent eu envie de manger à ma faim, à satiété, et le soir même, avec 3 amis et moi, nous sommes barricadés dans une ferme. Nous avons été terrorisés, les vieux bonshommes qui étaient là, nous avons demandé un poulet, il n'y en avait pas, nous avons trouvé un poulet, des pommes de terre, il n'y en avait pas, nous avons trouvé des pommes de terre, de l'huile, il n'y en avait pas, nous avons trouvé de l'huile, et nous avons fait l'imbécilité de faire frire un poulet, de manger les pommes de terre frites à l'huile. Et nous avons été malades comme des chiens pendant 3 jours, complètement immobilisés. Et ensuite, quand on a un petit peu remis, nous avons fait remarche vers l'arrière aussi, et ensuite, j'ai eu le typhus, j'étais soigné par les Américains dans un hôpital de campagne, tout ça. Et pourtant, je suis donc rentré à Paris plus de 1 mois et demi après ma libération. Je peux dire en meilleure santé qu'au moment de ma libération. Au moment de ma libération, je pesais, je crois, 34 ou 35 kilos. Et au moment où je suis rentré, je devais peser 38 ou 39 kilos. Et je mesure 1m76. D'abord, je me souviens que la première chose, c'est que la nourriture ne m'intéressait pas du tout. Je n'avais plus envie de manger, ça ne m'intéressait absolument pas. Je mangeais pour me nourrir, on devait me forcer même, alors que j'avais tellement rêvé à manger à sa faim. Et en plus de ça, je me souviens un souvenir qui me fait toujours un peu de peine. Mes deux petits frères, qui avaient respectivement 14 ans et 12 ans à ce moment-là, étaient venus d'Angers pour voir le grand frère qui revenait de déportation. Et ils m'avaient offert d'eux-mêmes leur ration de chocolat, parce que la chocolat était rationnée, il y avait des chocolats que pour les enfants en France en 1945, leur ration de chocolat du mois. Et ils sont restés 3 jours à Paris, et je n'ai pas touché ce chocolat, il était attendu. Je les voyais chaque jour venir me voir quand ils avaient le droit de venir sans me déranger 2 fois par jour, et tout en me parlant gentiment, je voyais qu'ils regardaient de côté vers ce chocolat qui était une fortune, un sceptre, une couronne pour eux, et que moi je ne touchais pas. Je me suis excusé auprès d'eux depuis d'ailleurs. Cette histoire de faim, c'est un truc, une obsession avec laquelle on s'accoutume comme à un vice. On vit avec ça, on pactise. Comme disait Mauriac, je ne sais plus dans quel livre, je suis un vieillard en proie à des manies dégoûtantes avec lesquelles je suis forcé de pactiser. C'est ça, on pactise avec cette espèce de vice, de honte et de souffrance qui est d'avoir faim. Qu'avoir faim qui se traduit par des brûlures d'estomac, des crampes. Une grande lassitude, bien sûr physique, qui est d'autant plus dure qu'on a des SS derrière vous qui vous forcent à travailler à coups de crosse de fusil ou de manche de pioche. Et puis, le peu de sentiment de honte, un peu d'être obsédé par des choses comme ça.
Elle a l'ouf, mariée et sans enfant.
Pour moi, c'est joli. Une femme ronde, c'est joli. Une femme qui a des seins et des fesses, je trouve ça très beau. Et les femmes telles qu'elles sont dépeintes dans un certain tableau d'Ingres sont des formes de corps que j'aime. Et bon, je me fais une idée de la féminité de la femme par ça. Donc une femme... Donc mon idée de l'esthétique féminine, c'est plutôt une femme qui a des formes qu'une femme maigre, c'est tout.
Est-ce que c'est lié au fait que vous soyez d'origine d'Afrique du Nord ou est-ce que vous pensez que c'est pas lié à ça du tout ?
Je sais pas, peut-être que le fait que je sois... Je sais pas, peut-être qu'il y a un phénomène culturel ou de mémoire comme ça par rapport à une culture, mais non, je veux dire que justement les filles de ma génération qui sont originaires d'Afrique du Nord ont tendance à maigrir et à adopter certains clichés. Je veux dire, moi, je n'ai pas de problème de poids spécifique, mais si j'étais plus ronde, je veux dire, ça ne me gêne pas. Ça me gêne dans la mesure où je mets un collant moulant et que c'est vrai que d'après certains clichés de magazines, un collant moulant avec des bourrelets sur les hanches, ce n'est pas joli, donc je ne le mets pas. Je veux dire que je mets certains vêtements qui m'avantage et un collant moulant, je trouve pas ça spécialement joli non plus. Je veux dire, il y a certaines choses dans la mode qui ne me plaisent pas et certaines choses dans la mode qui sont faites en fonction des femmes maigres et des femmes filiformes. Je jette pas la pierre sur les femmes filiformes, mais je veux dire que une femme m'attire à partir du moment où elle est belle. Et elle est belle, c'est-à-dire qu'elle a des formes, c'est tout. Pour les hommes, je veux dire que c'est pareil, hein, c'est pareil. J'aime pas les hommes maigres. J'aime pas les hommes maigres. Mais non, c'est une question d'esthétique personnelle. Je veux dire, les sculptures de Rodin, pour moi, c'est quelque chose de fabuleux au niveau de la volupté, au niveau de tout ce que ça inspire, au niveau du sensuel, au niveau de l'érotisme. Je sens pas l'érotisme dans la maigreur. J'ai peur de la maigreur. On vit dans une société où on peut manger, où évidemment les excès sont condamnables, je veux dire, sur le plan santé, mais s'astreindre à une feuille de laitue avec un steak grillé, c'est pas mon cas. Je veux dire, moi j'aime manger, j'aime boire. Si je dois passer à côté de tout ça, c'est pas la peine de vivre, quoi. Ça fait partie des plaisirs, comme de faire l'amour. C'est pareil. Moi j'aime bien manger un bon couscous, souvent même. Non, mais c'est être gros, ça a rapport à la bouffe, non? Bon, bah la bouffe, c'est important.
Et vous êtes une bonne cuisinière?
Ah, moi j'adore cuisiner, bien sûr. Tout. Je suis très créative au niveau de la cuisine. Je passe des heures à faire la cuisine, c'est mon passe-temps, c'est ma détente. Je fais beaucoup de cuisine.
Depuis toujours?
Oui, depuis toujours. J'ai toujours. Alors, quand j'étais plus jeune, effectivement, c'est des problèmes qui me travaillaient. À 15 ans, c'est des problèmes qui me travaillaient parce que j'avais une poitrine bien plus forte que les filles de mon âge. Et je faisais de la boulimie et je mangeais parce que je m'emmerdais. Alors que maintenant, je mange plus du tout parce que je m'embête. Je mange parce que j'aime bien manger.
Je veux m'en fourrer jusque-là. Je veux m'en fourrer jusque-là. Portez la lettre à Medella. Je veux m'en fourrer jusque-là. Je veux m'en fourrer jusque-là. Je veux m'en fourrer jusque-là. Portez la lettre à Medella. Je veux m'en fourrer jusque-là.
Il est enragé, ce baron. Eh bien, écoutez, c'est entendu, monsieur, je ferai porter cette lettre.
C'est très bien. Dites-moi, à quelle heure la table d'hôte?
La table d'hôte.
Monsieur X, patron d'un labo de produits amincissants et tonifiants, mais qui n'est pas une publicité vivante pour sa crème. Est-ce que vous avez essayé ce produit?
Oui.
Pendant 6 semaines, 8 semaines, c'est ça qui convient?
Ah, même plus que ça, parce que nous continuons toujours, à en utiliser de temps à autre, en particulier par exemple au niveau du visage, parce que ça permet de donner de la tonicité à la peau.
Vous avez quel âge, monsieur?
À quel âge me donnez-vous?
Je ne sais pas, 40, 50, comme ça. Vous avez quel âge?
45 ans.
Oui.
Oui. Je porte bien mon âge, alors. C'est parfait.
Bien. Racontez un peu. Non, ça fait rien. Racontez un peu. Qu'attendez-vous des Weight Watchers?
Une aide.
Perte de poids.
Perte du poids. Une aide. Oui. Est-ce que vous aviez déjà essayé de maigrir? Jamais. Formidable. Quelqu'un qui n'a jamais fait de régime. Aviez-vous déjà essayé de maigrir? Qu'est-ce qu'il se passait? Alors, 8 kilos en 8 jours et on les reprend aussi vite. Je m'appelle Evelyne.
Voilà la messe rose.
Je suis animatrice de cette
Weight
réunion.
Watchers.
J'ai perdu 12 kilos avec le programme Weight Watcher. Je les ai déjà perdus il y a 3 ans. Ce qui fait que depuis 3 ans, je me maintiens. Car comme vous, j'ai perdu des kilos. Comme vous, j'ai essayé de maigrir. Comme vous, j'y avais réussi. Mais chaque fois, comme vous, je les reprenais, n'est-ce pas Marie-Claude? J'ai appris, avec le programme de maintien, à ne plus regrossir. Bien. Les résultats cette semaine?
On est foutu. On mange trop.
Ça a été importé avec la mentalité américaine, qui est une mentalité que nous trouvons, nous, un petit peu infantile. C'est-à-dire que tout le monde applaudit quand la dame a perdu ses 500 grammes. Tout le monde la regarde avec pitié quand elle n'a pas perdu ses 500 grammes. On donne des récompenses. Enfin, il y a tout
Docteur
ce côté un petit peu maternel que nous n'apprécions pas tellement, tellement en France. Mais en fait, pour les gens qui n'arrivent pas à perdre leur poids eux-mêmes, en suivant un régime avec leur propre discipline, d'avoir l'encouragement des autres et surtout l'exemple des autres, cela les aide beaucoup. Et dans certains cas, j'envoie mes propres malades chez les Weight Watchers de façon à ce qu'ils soient aidés.
Une des questions que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on perd quand on perd du poids? Ce n'est pas qu'un jeu de mots, je crois.
Non, ce n'est pas un jeu de mots et c'est extrêmement variable suivant les individus. Il y a des gens pour qui la perte de poids se passe très facilement et sans aucune difficulté parce qu'en fait, leur psychologie n'est pas vraiment liée à leur poids. Il y en a d'autres qui deviennent des gros parce qu'ils ont besoin d'affronter la vie et d'opposer aux difficultés de la vie une masse physique. Et la perte de cette masse physique est ressentie par eux comme la perte d'une défense et comme un danger. Ils se sentent en danger quand ils perdent du poids. Et là, le rôle du médecin devient très très important parce qu'il ne faut jamais aller contre cette peur. Il ne faut pas l'ignorer et il ne faut pas obliger quelqu'un qui a trop peur de maigrir, il ne faut pas l'obliger à maigrir parce qu'on arrive à des réelles décompensations de névroses qui peuvent être très très graves, qui sont beaucoup plus graves encore que quelques kilos excédentaires. Sans compter que, effectivement, suivre un régime est une chose très difficile et une chose très traumatisante. Nous avons été élevés depuis tout petit avec l'idée que manger, c'était la vie. Notre mère nous a appris ça en nous donnant un biberon. Et quand nous ne le prenions pas, elle était inquiète pour nous. Or, un bébé le ressent tout de suite et cela le marque pour le reste de sa vie. La nourriture est liée à la vie. Donc, dès qu'on s'attaque à un problème de nourriture, on s'attaque à des structures très, très profondes de l'individu. Et s'il a un très bon équilibre psychologique, il peut assumer ça bien parce qu'il a d'autres défenses. Mais s'il est resté un peu accroché au phénomène de nourriture comme compensation d'un certain nombre de difficultés dans la vie, c'est beaucoup plus difficile pour lui d'assumer ça. Et c'est là où il faut vraiment beaucoup se méfier et faire très attention au type de régime qu'on lui donne.
Effendi, oui, c'est ça. Oui, c'est un mot qu'on retrouve en fait en grec, dans, je crois dans les langues arabes, dans les langues slaves, enfin pratiquement dans tous les Balkans, c'est le mot effendi qui veut dire patron. Et l'effendi, c'est le patron et c'est celui qui a un petit ventre, qui marche un petit peu comme marchait Panis dans Marius de Pagnol. Une espèce de rondeur en marchant un peu comme ça. Et ça, c'est l'effendi. Effectivement, c'est bien vu. Et je crois que c'est quelque chose qui continue, ça. Même en 81, dans ces pays-là, les gens qui sont un petit peu ronds, on leur prête une espèce de réussite, de espèce de pouvoir comme ça.
C'est avoir de quoi avoir du poids.
Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a aussi une chose qui me frappe alors dans ces pays-là aussi, c'est qu'il y a la nourriture, il y a des nourritures où tout est concentré dans, par exemple, ces pâtisseries orientales où tu as à la fois le sucre, la farine et les graisses. Dans un gâteau, tu as peut-être 1000 calories qui permettaient aux pauvres de tenir la journée. Mais comme les gens ne font plus la même activité dans les classes bourgeoises, ils continuent à manger cette nourriture la même, bon, ils prennent aussi du poids.
Ça a beaucoup changé depuis une trentaine d'années environ. Autrefois, je ne parle pas d'il y a 50 ans où mes grands-mères pouvaient être grosses, et ça leur était tout à fait égal. Il y avait des femmes qui étaient grosses, il y avait des femmes qui étaient maigres. Eh bien, elles l'acceptaient parfaitement et elles ne s'en préoccupaient aucunement. Et d'ailleurs, les médecins ne s'en préoccupaient pas non plus puisqu'on ne connaissait pas les incidences médicales de la surcharge de poids. Mais vraiment, c'était un phénomène social parfaitement accepté. Tandis que maintenant, en tous les cas, sous nos latitudes, à nous, en Europe et particulièrement en France, c'est très mal accepté socialement. C'est pour ça qu'au point de vue de sa satisfaction personnelle, la plupart des femmes aiment mieux être minces. Mais il est certain que quand on voit la faim dans le monde et quand on voit notre gaspillage à nous et quand on voit les gens qui se plaignent quand on leur fait une toute petite restriction de nourriture et que l'on pense aux gens qui vivent avec une poignée de riz par jour et encore, eh bien, il y a là une très grande contradiction dans ce monde et pour laquelle je ne vois aucune solution à l'heure actuelle. Cela dit, quand arrive 7 heures du soir et que les gens viennent me dire que parce qu'ils n'auront pas leur 6 tartines pour leur petit déjeuner, ils auront faim, il m'arrive de leur dire, ben, pensez aux petits Indiens. C'est horriblement injuste, mais ça m'arrive de le faire.
Comment est-ce qu'ils réagissent?
Eh bien, ils me regardent avec un air très étonné et ils me disent « Ah ben, c'est pas la même chose. » Et c'est eux qui ont parfaitement raison, ce n'est pas du tout la même chose.
Ah là 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 là. Tous ces pays qui crèvent de faim, c'est pas Dieu possible, c'est pas possible. Ça va péter, attends un peu, ça va péter de partout. Les Vietnamiens, les Indiens, les Africains, moi ça me fout une angoisse. Hier, après le journal télévisé, j'ai été saisi d'un bourdon. J'étais pas seul, j'ai bien vu. Le Mourouzi, il avait une petite mine. Oh là là là. Aujourd'hui, ça va encore. Mais hier, après le journal télévisé, une angoisse insoutenable. Oh, les malheureux. Des millions de gens qui crèvent de faim. Je me suis dit, je peux pas rester immobile devant ce spectacle. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut faire quelque chose. Oh! Je suis allé au restaurant. Je m'en suis foutu plein la lampe. J'ai commencé par une soupe de courge. Après, on a eu une petite terrine à base de tête de veau mélangée avec du pied de cochon. Très fin. Du gras double. J'en ai repris deux fois. Le tout arrosé d'un sauterne un peu doux, un peu trop doux, mais enfin les temps sont durs. Pas la peine de faire.
Et dans l'Antiquité, docteur de Kergorlais, hein,
on sait très peu de choses là-dessus. On sait que dans l'ensemble, le problème du poids ne se posait pas beaucoup parce que les gens ne vivaient pas très très âgés et le canon de la beauté était un canon de jeunes et de très jeunes et d'adolescents. Et cela n'avait aucune importance ce que l'on devenait après l'âge de 20 ans ou de 25 ans. Et en tous les cas, je n'ai jamais trouvé de recette pour perdre du poids dans l'Antiquité. Ce n'est pas un problème qui se soit posé du temps d'Hippocrate, par exemple.
Et pour grossir ?
Alors là, c'est différent. Très certainement que oui. Parce que autrefois, le poids était lié à la santé. Quand on voyait les gens maigrir ou des gens très maigres, on pensait qu'ils étaient en mauvaise santé et on avait des tas de recettes pour arriver à leur faire prendre du poids. Ça commençait chez les bébés pour faire grossir les gens. Depuis alors les temps immémoriaux, on sait que le sucre et la farine et les farineux font grossir. Et c'était ça, les recettes que l'on employait, elles sont toutes les mêmes dans tous les pays du monde.
Quand on va aux États-Unis, j'ai remarqué que les jeunes femmes, 20, 30 ans, 40 ans, ont toutes un peu le même genre de corps, ce qui est quand même assez fascinant, cette espèce de minceur qu'on voit dans les films américains.
Vous savez, ça s'obtient beaucoup à force de volonté. Encore une fois, à un moment donné, même en France, vous ne voyez que des Brigitte Bardot. Après ça, vous n'avez vraiment vu que des garçons. Et dans mon cabinet, j'étais quelquefois obligée de déshabiller les gens pour savoir si c'était un garçon ou une fille. Il y a ce phénomène de nutrition certainement qui joue, c'est-à-dire qu'on donne une alimentation beaucoup plus protidique qui fait que les gens sont plus musclés et plus minces et ont moins de graisse.
Quand et comment utiliser Gnagna 3 ? Il suffit d'appliquer la valeur d'une noisette de Gnagna 3 sur les rondeurs incriminées par effleurage doux et circulaire pendant une dizaine de minutes. Dès la première application, Gnagna 3 laisse sur la peau une sorte de film protecteur, pas gras, à peine palpable au toucher. N'est-il pas encourageant de savoir que le temps et la persévérance pour appliquer Gnagna 3 vont finalement vous aider à retrouver sans trop de mal, et avec combien de plaisir, la silhouette dont vous rêviez pour enfin aller bronzer en maillot, sans complexe. En vente dans toutes les pharmacies.
Quand je peux... 120 kilogrammes comme un éléphant. J'occupais, c'était tout un drame. Trois places dans le métro. Quand je prenais une caravelle, ça penchait d'un côté. Quand je montais sur la tour Eiffel, je la sentais vaciller. Poussant mes bourrelets. Un gorge, je prenais le modèle au-dessus. Maintenant j'ai l'air d'un sucre d'orge et je n'emporte plus. Tous mes amants pour mieux me plaire m'offraient en même temps avec la clé de leur frigidaire celle de l'appartement. Vous savez mes bourrelets.
J'ai trouvé affreux, moi, les femmes de Rubens. Mais en même temps, tous les mannequins ont toujours été très filiformes, avec pas de seins et pas de forme.
Alain Souchon.
Et en fait, ça change un peu. J'ai l'impression que maintenant, elles deviennent plus normales, plus faites comme des femmes, quoi. J'aime bien, j'aime mieux. Tout le monde aime mieux. Non, mais si on avait demandé aux hommes si les silhouettes des femmes telles qu'elles sont dessinées par les stylistes depuis 20 ans, si ça leur plaît... À 95%, les hommes auraient dit non, elles ne me plaisent pas, les femmes, comme vous les dessinez. Pourtant, ça nous est imposé comme ça. C'est bizarre, ça.
Alors, une femme est belle à 50 kilos, 55, 60...
Ça dépend de sa taille, je sais pas, je ne me rends pas compte. Mais une femme bien enveloppée, ça peut être absolument ravissante. Valérie Mérès, elle est assez enveloppée, là. Elle est charmante. Elle ne fait pas grosse plaine de soupe.
L'horreur, c'est ça. C'est le gros ou la grosse plaine de soupe.
Et encore, j'en connais qui ont beaucoup de charme et qui sont charmants. Ils sont adorables à vivre. Une femme peut être grosse et belle, avoir du charme, être sexy, bien sûr. Il y en a des mecs qui sont pas sexy et moches. c'est pas à la grosseur du tour de taille que ça se mesure.
Mais vous êtes fier d'être maigre?
Ça m'aide comme silhouette et tout, c'est certain que les gens qui ont... Moi j'ai 36 ans et je grossis pas, les gens qui ont tous 36 ans qui font mon métier et qui bouffent trop, puisque c'est comme ça, ben, ils ont tous des problèmes de régime et de machin que moi j'ai pas, donc je suis content. C'est tout, je suis pas fier, c'était pour rire que je disais ça. Mais je suis maigre quand même, j'ai les petites jambes et tout, petits bras, petites jambes.
Petites jambes torse.
Oui c'est ça, jambes torse, comme Lucky Luke. Mais c'est certain qu'un type qui est énorme doit avoir des difficultés pour plaire aux femmes. Et puis une femme pareil, c'est sûr.
Si vous deveniez vous gros, qu'est-ce que vous feriez?
Eh bien, parce que j'ai une espèce de fierté de ne pas être gros. Alors je ne serais plus fier. Non, mais parce qu'on a l'impression, et ça qui est terrible dans le monde tel qu'il est fait là, avec nos modes, nos magazines et tout ça, que les gens qui sont maigres, ils ont plus de mérite que les gens qui sont gros. On dirait que les gens qui sont gros, ils se laissent aller et ils sont feignants et sans caractère. Alors que c'est pas vrai, c'est simplement que c'est pas de leur faute. Alors moi je suis maigre, je suis dans le camp des privilégiés.
Ton œil profond d'Hidalgo tango, tes joues creusées haut, guerrier roule, tourbillon des belles danseuses rêveuses. Que la révolution me rend nerveuse, mais l'estomac y tient pas le tempo. Tombe de haut gringo pistolero, dans la crème chantilly les gâteaux, dans la crème chantilly les gâteaux. Le gros bibin d'homme que t'as dans le cœur, tu l'as trouvé beau dans le temps, petite sœur. 60 kilos d'échevelé de poète, tout lui vide au milieu des tempêtes. Mais l'estomac y tient pas la rime, L'albatros patauge dans l'ice cream. Nous la jolie, nous la beau. Tout en pâté, pâteau, par les pâtés, les gâteaux. Nous la beau, nous la jolie. En kilos et soumis sous les kilos de calories. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop. Papa mambo.
On est foutu, on mange trop. Roulait des hanches en douceur, chanteur, dans son habit cœur, belle minceur, le poster fatal au-dessus du lit. Mais la petite fille d'alors, elle a grossi, elle a groupie, fait de la bonne cuisine. Le chanteur a débordé de son jean, nous v'la jolie, nous v'la beau. Tout en pâté, pâteau, par les pâtés, les gâteaux, nous v'la beau, nous v'la jolie. En kilos et soumis sous les kilos de calories, on est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop.
On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop. Papa mambo.
On est foutu. On mange trop.
Le signe de mon idole Alain Souchon, une émission en courbe, en sinusoïdale, en allée et venue, sans réponse, avec beaucoup de questions, et avec, par ordre d'entrée en onde, des gros, des maigres, des grosses, des maigres, Chantal Chaouaf, Derrick Quinan, Marie Renaudin, Clara Le Picard, Anne Gaillard, Jacques S., Sonia Elalouf, des Weight Watchers, Monsieur X, le docteur de Kergorlais, un extrait de Lourde et Lente de André Ardelais, un très beau livre, paru chez 10-18, était lu par François Mekel. Nous avions aussi invité Guy Bedos, Alice Donna, Serge Gainsbourg, Bessie Smith, Oscar Petersen, Offenbach, Marie-Paul Bell, Alain Souchon. C'était une émission de Nicole Lise Bernheim et Marie Vouilloux.
Cette émission a été diffusée la première fois le 13 avril 1981 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.